RFI, il est 4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, le ministre turc des Affaires étrangères, Ekan Fidan, a rencontré Abu Mohamed Al-Julani, nouvel homme fort de la Syrie. Le chef de la diplomatie turque réclame la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie. Des dizaines de milliers de manifestants en Serbie, ils demandent au gouvernement d'assumer ses responsabilités après l'effondrement d'un toit dans une gare ferroviaire qui a fait 15 morts le mois dernier. Dans ce journal également, Donald Trump dit vouloir récupérer le canal du Panama, vous l'entendrez. Et puis au Brésil, les premiers clichés d'une communauté indigène isolée vivant dans la forêt amazonienne ont été dévoilés. Voilà pour les titres, bienvenue. En Syrie, les diplomates et responsables politiques se rendent auprès des nouvelles autorités pour rencontrer Abu Mohamed Al-Julani. Ce dimanche, le ministre turc des Affaires étrangères, Ekan Fidan, a rencontré l'ancien chef d'Al-Qaïda. Au menu des discussions, le retour des réfugiés, la levée des sanctions occidentales contre Hayat Tahrir al-Sham. Mais le ministre turc avait surtout une priorité, réclamer la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie, Abla Junaidi.
Ankara demande à Damas de désarmer les YPG, les combattants kurdes qui évoluent de l'autre côté de la frontière. Alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, ils sont qualifiés de terroristes par la Turquie. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE à Damas et Ankara.
On sent bien que la Turquie est sensible aux appels occidentaux de ne pas créer plus de souffrance pour atteindre leurs objectifs. Et le ministre Fidan dit clairement, ça va dépendre de quels arrangements ils font à Damas. Si c'est satisfaisant pour la Turquie, très bien. Si ça dure trop longtemps, on va bien devoir prendre des mesures.
Désarmer les milices, c'est ce qu'ambitionne de faire le jeune gouvernement intérimaire syrien. Mais cela ne doit pas se faire par la force. Khaled Issa, envoyé spécial en France de la région autonome kurde de l'Est syrien, le Rojava.
Je pense qu'on peut, avec le dialogue, résoudre tous les problèmes entre les Syriens. Et j'espère que les autorités de Damas ne vont pas accepter la mainmise totale de l'État turc, un État voisin, mais malheureusement, il convoite une partie du territoire de notre État syrien.
Pressé d'agir, le ministre turc, depuis Damas, a interpellé directement le futur président américain Donald Trump pour que Washington abandonne son soutien aux combattants kurdes.
Pas de réponse de Donald Trump pour le moment. Dans la région toujours, agir avec force et détermination. Avertissement ce dimanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'encontre des Houthis. Ces rebelles du Yémen avaient lancé une frappe à Tel Aviv faisant 16 blessés légers. C'est la deuxième attaque lancée par les Houthis en 3 jours. L'armée américaine, alliée d'Israël, a réagi en visant des installations militaires rebelles à Sanaa, la capitale yéménite. Les combats se poursuivent à Gaza. 28 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes. Vendredi, un bâtiment scolaire a été touché et a fait 8 morts, dont 4 enfants. Le pape François condamne pour la deuxième fois en 2 jours la cruauté de ces frappes. Israël l'accuse de 2 poids 2 mesures, et ce, malgré les espoirs d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Le Hamas et 2 autres groupes palestiniens avaient déclaré qu'un accord de trêve était plus proche que jamais. RFI, 4h03 à Belgrade, le gouvernement et le président serbe sous pression. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient dans les rues de la capitale ce dimanche pour demander leur démission. Et ce, 1 mois après le drame de la gare de Novi Sad, où un toit s'est effondré et a tué 15 personnes. Correspondance de Laurent Rouy à Belgrade.
À l'appel des étudiants, ceux-là même qui occupent plus de 50 universités dans le pays, et d'un syndicat d'agriculteurs, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Belgrade pour réclamer la fin de la corruption et de l'impunité des responsables politiques. Plus de 30 000 personnes, ce qui est énorme pour la Serbie, qui compte un peu plus de 6 millions d'habitants, ont brandi l'image d'une main ensanglantée. Elle symbolise, selon eux, la responsabilité du gouvernement dans la mort de 15 personnes suite à l'effondrement dû au vent de la gare de la deuxième ville du pays, qui venait d'être rénové. Plusieurs centaines de manifestants se sont ensuite dirigés vers le Parlement où ils ont réclamé la démission de la présidente de cette institution et du président Aleksandar Vučić. Le pouvoir, qui avait fait arrêter des leaders paysans en début d'après-midi, a été obligé, chose rarissime, de reconnaître l'ampleur de la mobilisation qui a même été abordée dans les médias pro-gouvernementaux. 2 petites victoires. Une nouvelle manifestation est prévue mercredi. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En France, malgré la promesse d'un gouvernement ce week-end, le Premier ministre François Bayrou n'a toujours pas trouvé son équipe. Il s'est entretenu avec le président Emmanuel Macron à 3 reprises ce dimanche. Son entourage indique qu'il effectue les derniers réglages. Il faudra donc attendre encore un peu. Lundi, peut-être mardi. En tout cas, ce lundi sera jour de deuil national pour l'archipel de Mayotte en hommage aux victimes du cyclone Chido. Direction les États-Unis. À moins d'un mois de sa prise de fonction, le président élu Donald Trump continue de menacer ses partenaires commerciaux. Ce samedi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il s'en est pris au canal de Panama. Il relie l'Atlantique au Pacifique et les États-Unis en sont le principal client, mais le milliardaire américain estime que les prix pratiqués sont trop élevés et menace de demander au Panama de rendre le canal aux États-Unis si les droits de passage ne baissent pas.
Soyons clairs, les États-Unis n'ont aucun argument juridique à faire valoir pour récupérer le canal de Panama. Certes, c'est bien eux qui l'ont construit au début du XXe siècle, quand le petit pays d'Amérique centrale était un protectorat américain. Mais le Panama a obtenu la pleine souveraineté sur le canal il y a 25 ans et ne compte pas y renoncer. Concernant les prix maintenant, si les Américains grincent des dents, c'est parce que le canal a effectivement augmenté certains de ses droits de péage pour compenser la sécheresse qui l'avait obligé à réduire son trafic à partir de 2023. Olmedo Estrada, économiste panaméen, joint par Raphaël Morand.
Une des stratégies qu'a utilisé le canal a été de lancer des enchères sur les droits de passage. Les bateaux qui avaient besoin d'arriver très vite à destination ont donc payé beaucoup plus que d'habitude.
Grâce à cette politique, le canal a enregistré des recettes records cette année, près de 5 milliards de dollars. Ces tout derniers mois, la saison des pluies a fait remonter les niveaux d'eau et avec ça, le nombre de bateaux autorisés à passer. Près de 70% du trafic se fait vers ou depuis les États-Unis.
Justine Fontaine du service économie d'RFI. De son côté, le président du Panama, José Raúl Mulino, rejette la menace de Donald Trump. Le futur président des États-Unis qui a annoncé ce dimanche vouloir arrêter, je cite, le délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Nouvelle salve du camp républicain contre les droits de la communauté LGBT. Il a déclaré qu'il signera des décrets pour, je cite, mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. Au Brésil, ce sont des images inédites révélées par le journal britannique The Guardian et le quotidien brésilien O Globo. Le premier cliché d'une communauté indigène isolée vivant dans la forêt amazonienne. Le groupe est connu sous le nom de Massaco et a été photographié par des appareils automatiques. Leur présence était connue par des traces indirectes, mais ces observations permettent de mieux les connaître et de constater que leur communauté semble prospérer. Simon Rosé.
Ce sont des clichés pris entre 2019 et 2024, rendus pour la première fois publics. Des petits groupes d'hommes entre 30 et 40 ans, parfois plus jeunes, en train d'installer des pics dans la jungle. Les Massaco, un peuple qui tire son nom de la rivière qui passe non loin, mais en réalité personne ne connaît le nom qu'ils se donnent ni quelles sont leurs croyances ou structures sociales. Ce groupe est en effet l'un des 61 peuples non contactés recensés. Leur existence est connue par la découverte de leurs traces. C'est la Fondation nationale brésilienne des peuples indigènes qui effectue ce travail de suivi et ce sont ces agents qui ont placé les appareils photo automatiques et qui ont permis d'obtenir ces clichés. Leur étude permet de déduire que cette communauté va bien, que sa population est croissante, une tendance qui s'est inversée depuis une trentaine d'années. Jusqu'à la fin des années 1980, la mission de la fondation était justement d'entrer en contact avec ces communautés qui faisaient obstacle au développement économique de la région. Cette démarche s'est révélée catastrophique, maladies et misères accompagnant leur rencontre avec le reste du monde. Depuis, la stratégie est opposée et la région de Massaco est exclusivement réservée à cette communauté.
L'actualité économique désormais. Selon la presse nippone, le géant japonais de l'automobile Honda et son compatriote en difficulté Nissan devraient annoncer lundi l'ouverture de négociations en vue d'une fusion. La naissance de cette nouvelle entité ferait du groupe le numéro 3 mondial de l'automobile derrière Toyota et Volkswagen. Les constructeurs cherchent notamment à se renforcer dans l'électrique, dont le décollage en Chine et en Europe les a pris de vitesse. Il est presque 4h10 à Paris, 3h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes sur RFI.